suis très heureux que qu'il y ait un centre Xenakis encore en France, que quelque chose de la pensée de Xenakis soit encore vivant. Je dois dire que, effectivement, je vais vous parler de ça, parce que c'était un petit peu pour ça que tu m'as fait venir. Je vais donner un témoignage, je vais raconter deux, trois petites choses. La personnalité de Xenakis ne laisse personne indifférent. C'est-à-dire que je crois que j'ai eu la chance de croiser pas mal de compositeurs dans ma jeunesse. J'avais beaucoup à l'époque. Effectivement, c'était très important de capter ce qui se passait. Xenakis, lui, il était à la fin de sa carrière universitaire, puisque j'ai assisté à son dernier cours, en fait, universitaire, à Paris 1, en même temps que, devine, Martin Laliberté. On était ensemble dans ce cours-là. Alors, le cours de Yanis Xenakis, c'était pas un cours véritablement de composition. D'ailleurs, lui-même s'est toujours refusé à enseigner la composition. Je pense qu'il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire, puisque lui-même n'avait pas tellement eu l'occasion d'apprendre la composition dans sa jeunesse. Et parce qu'il avait, et c'est une chose qu'on va commencer à discuter, une autre idée de ce que devait être la transmission. Alors, je vais essayer de vous parler de tout ça d'une façon assez libre, en fait, hein. Je vais replonger dans quelques écrits choisis. Je ne vais pas démultiplier les citations. Et je vais y rapporter, en fait, au fond, ce que je vais essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est la façon dont on est influencé, la façon dont quelque chose se transmet positivement ou négativement, c'est-à-dire comment on se positionne aussi par rapport à une pensée et quels sont les débats, en fait, parce que tout ça était beaucoup de l'ordre du débat. Alors, j'ai un petit peu changé le titre par rapport à celui qui vous était donné. L'avenir de la musique, c'était effectivement un peu la thématique que j'avais dans un des paragraphes, enfin chapitres de ce livre que j'ai publié récemment. C'est vrai que j'ai fait ma thèse sur la forme en musique, et c'est mon directeur de recherche, qui était Daniel Charles, qui m'a dit: vous allez voir Xenakis. J'aurais pas osé tout seul, mais il avait bien raison. Et il avait d'autant plus raison qu'en fait, j'ai voulu, dans cette thèse, analyser à fond, non pas les œuvres très connues du début de Xenakis, mais les œuvres de la période relativement récente, hein, par rapport au moment où j'ai fait ma thèse, qui effectivement donnait une autre perspective un peu à sa façon de composer. Et tout ce que ça voulait dire. Donc j'ai essayé de creuser cet aspect-là un petit peu plus. Et du coup, je suis tombé, et je vais vous expliquer aussi pourquoi, sur des affaires théoriques de la musique qui, à mon avis, étaient assez importantes. Alors, je vous ai dit, j'ai changé le titre. Le titre que j'ai pris, il est assez différent, mais il veut dire la même chose en réalité. C'est Yannick Xenakis, la musique et l'intelligence du monde. Là-dedans, il y a un autre mot, c'est le mot intelligence. On va voir qu'on va le retrouver comme un noyau, en fait, hein, et je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour Xenakis, et pour moi très important dans ce que j'ai pu capter de lui, en fait, en réalité. C'est cet appétit, ce goût et cette idée que la musique était au centre du problème de l'intelligence du monde. Et que, au fond, s'intéresser à la musique, c'était se cogner contre un des problèmes les plus peut-être importants de notre humanité. Et je pense que Xenakis était un des rares musiciens à avoir cette conscience-là. Et ça me paraît très très important, surtout aujourd'hui où on fait tout pour faire de la musique, et même de la musique contemporaine, hélas, quelque chose d'extrêmement futile. Pour Xenakis, ça n'avait rien de futile, et c'était peut-être ça sa première leçon. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas juste une imagination de ma part, je vais revenir à un numéro assez ancien, hein, c'est-à-dire on est en 1972. Bon, Xenakis, c'est un compositeur déjà très connu, mais enfin, l'art que va lui consacre un numéro, c'est une forme de reconnaissance assez importante, effectivement, mais qui n'est pas gagnée. Et c'est, ça fait partie des premiers ouvrages sur Xenakis où on va pouvoir avoir un peu de discussion avec lui et avec sa pensée. Alors, dès l'introduction, Bernard Pinault, qui était responsable donc de cette édition, entame tout de suite une démarche rigoureuse, hein, et il dit dans notre galerie de portraits, puisque l'Arc s'occupait de faire le portrait à chaque numéro d'un grand intellectuel, de l'époque ou pas de l'époque d'ailleurs. C'était quelque chose de très très vaste, cette entreprise. Voici peut-être, dit-il, le plus singulier. Musicien avant tout, mais aussi architecte, philosophe et mathématicien, quand il le faut, Xenakis a entrepris de réconcilier l'art avec la science. Alors ça, c'est une dialectique qui après, évidemment, est devenue tout à fait centrale, cette affaire d'art et de science, mais on y apprend quand même ici qu'il s'agit de les réconcilier. Ce qui veut dire que cette jonction en 1972 est tout sauf évidente. On mesure, à écouter ces apôtres de la rationalité, combien reste vivace l'idée que le romantisme nous a légué du génie. Se peut-il qu'une œuvre musicale puisse se calculer comme une charpente et inversement ? Et vous voyez comment se poursuit la dialectique, c'est-à-dire que, en fait, il y a quelque chose qui se passe entre l'héritage du romantisme, qui est encore extrêmement prégnant, et le problème de la rationalité. Et c'est de ça que je vais essayer de parler dans un premier temps, ce rapport-là, parce que, effectivement, j'étais touché par ce problème, moi-même, de manière très forte. Alors, pire, que de tels calculs puissent être confiés à la plus redoutable, à la plus froide des machines, l'ordinateur. Donc vous voyez aussi ce rapport au machinisme, on verra quel est le rapport de Xenakis à l'ordinateur un peu plus loin. Oui, c'est possible, puisque ces œuvres, les voici, elles portent des noms étranges, Pitopracta, Corypsis, Stéretector, et sont, à proprement parler, inouïes. Celui qui les entend pour la première fois a l'impression de découvrir un univers sonore entièrement nouveau et mesure du même coup que, dans Ingénieur, il y a génie. Et effectivement, c'est la croyance commune qu'il y a génie dans Ingénieur. Mais en fait, c'est pas du tout l'étymologie du mot ingénieur. Et moi-même, j'ai été un petit peu forcé par les circonstances et la famille et les conjonctions diverses d'être ingénieur. Et pour moi, c'était très clair que dans ingénieur, il y a l'ancien français engin qui veut dire machine de guerre. C'est-à-dire que un ingénieur, c'est celui qui fait les machines de guerre. Donc moi, j'étais pas tout à fait d'accord pour faire des machines de guerre, et donc pas tout à fait d'accord pour être ingénieur, mais je le suis quand même. Et j'avais ça de commun avec Xenakis, c'est-à-dire que on avait eu tous les deux une formation disciplinaire forte, et on se retrouvait à vouloir être artiste avec ça. À partir d'eux, autour d'eux, moi j'avais une relation quand même assez de défiance vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que ça donne des outils intellectuels, des possibilités de faire qui sont loin d'être négligeables. Alors, cette confrontation entre la rationalité et le romantisme, c'était en fait le thème du premier article que j'ai écrit. C'est en espagnol parce que ça a été publié dans une revue qui était en fait l'équivalent d'une chose comme Diapason, si vous voulez. Mais à l'époque, les Diapasons, il y avait du contenu un peu. Et donc c'était un ami espagnol, Manuel Rodero, qui m'avait demandé d'écrire cet article à un moment où j'étais en Espagne, élève de Francisco Guerrero. J'avais passé une année en Espagne pour étudier avec Francisco Guerrero, qui était lui un énorme admirateur de Xenakis. Peut-être beaucoup de gens ont dit c'est le Xenakis espagnol, bon c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que il avait cette foi dans l'idée que allait venir des nouveaux outils une nouvelle conception de la musique et qu'il fallait travailler ça. J'étais pas forcément pas d'accord avec ça, mais j'avais quand même un certain nombre de réticences, et vous voyez le titre de cet article qui s'intitulait carrément « Le romantisme scientifique et la musique d'aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'était deux choses séparées, le romantisme et la rationalité, j'avais perçu, parce que c'était plus une intuition qu'autre chose en réalité, à l'époque, j'avais perçu qu'il y avait dans cet attrait pour la science quelque chose de romantique, c'est-à-dire que quelque chose qui allait du côté d'une certaine perception du moi. On parlait du génie tout à l'heure, mais c'est de ça dont il s'agit. Alors, juste quelques petits bouts de l'article pour s'en faire une idée. Je disais, le romantisme du 19e siècle, je suis désolé, c'est en espagnol, se confrontait aux problématiques du moi. Et il est demeuré éloigné du monde qui était en train de se construire devant ses yeux. D'une certaine manière, Amérique et ionisation de Varèse ont brutalement fait sauter ce rêve. La musique ne va pas s'opposer, mais transcrire cette nouvelle réalité du monde. C'est déjà à partir des futuristes, en fait. Les compositeurs qui ont suivi Schoenberg se sont confrontés à la même aux mêmes interversions de comportement qui a caractérisé la pensée scientifique du début du siècle. À partir de là, la théorie précède en fait l'expérience. Et beaucoup d'œuvres sérielles peuvent se comprendre mieux depuis cette perspective, c'est-à-dire la perspective d'une théorie préalable. La musique se consacre à des investigations pour lesquelles, dans le cours desquelles, elle rencontre les mathématiques. Et donc cette idée qu'effectivement il y avait eu aussi pour la musique, c'est Bachelard, si ma mémoire est bonne, qui appelait ça l'inversion épistémologique, c'est-à-dire le fait que avant la théorie était inspirée de la pratique, et puis à partir des nouvelles théories de la fin du 19e, c'est la pratique, c'est l'expérience est dictée par des théories qui sont préalables. Et la musique a probablement vécu ça au milieu du 20e siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, créé des objets à partir des théories, et non plus, comme on l'avait fait avec la musique, avec le système tonal, créer une théorie du système tonal à partir d'une pratique qui lui était préalable. C'est très important, je pense, cette affaire-là, pour comprendre la musique des années 50. Parce que c'est une musique qui, effectivement, se préoccupe moins de l'objet qu'elle va produire que du fait même de produire l'objet. Alors, les musiciens, évidemment, se sont appropriés cette imagination fertile de la réalité qui était présente dans la science, et ils ont développé au milieu de l'univers musical une sorte d'expansion de l'espace sonore et des possibilités. Et ça, c'est manifeste, c'est l'histoire de la musique du XXe siècle nous explique ça. Cette nouvelle abondance des effets sonores est reliée en grande partie avec l'introduction de l'électronique, et elle a servi très souvent à une rénovation superficielle de la musique plus que à l'approfondissement de son propre champ formel. Et là, vous voyez que déjà dans cet article, je commence à pointer quelque chose qui est pour moi à l'époque était vraiment très important, c'est-à-dire que pour moi ça suffisait pas cette affaire de rénovation sonore avec juste l'apparition de nouveaux effets, de nouvelles façons de faire apparaître des choses, mais que il manquait à cela une vraie compréhension théorique. Je prends un exemple très très simple, mais j'étais très influencé par l'idée de micro-intervalle, et ça m'a paru toujours évident que tout ce qui s'est écrit en micro-intervalle au XXe siècle était tout à fait heuristique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on lançait des possibilités, mais on n'avait pas de pensée centrale, ou très peu de pensée centrale de cette diversité et d'une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi en faire un système en réalité. Et donc on avait des tentatives partielles, locales, réussies souvent d'ailleurs, très intéressantes, mais je restais moi en tant que théoricien très, très insatisfait. Alors, une dernière remarque liée à ça, c'est que il faut faire, je disais dans cet article donc, qu'il fallait faire très attention à la confusion des niveaux d'intellection, et il fallait éviter un symbolisme primaire et inefficace, et notamment l'idée que l'espace-temps du physicien et celui du musicien puissent tout à fait s'assimiler. Alors, c'est étrange que j'écrive ça, parce que moi, après ça, j'avais beaucoup réfléchi à cette histoire. Mais, évidemment, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, c'est-à-dire que la physique, le domaine de la physique était quand même... Il y avait un grand absent qui ne pouvait pas être absent pour la musique, c'était le sujet. Ce qu'on appelle en philosophie le sujet, c'est-à-dire l'être humain. Alors, je ne veux pas insister plus que ça, mais cette divergence, elle m'a amené à, et je le dis déjà dans ce premier article, à concevoir l'espace de la musique en rapport avec justement quelque chose qui concerne le sujet, c'est-à-dire à la fois la mémoire et les possibilités cognitives de l'être humain. Et ça, c'était quand même un grand absent des théories et des formes de pensée qui étaient là dans les années 60. Enfin, je vous parle des années 80, en fait. Et c'était un grand absent, mais pas tant que ça, parce que si on lit bien Xenakis, ça fait toujours partie de l'arrière-plan. Alors. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre, hein. C'est en relisant cet extrait, qui est un extrait de l'ouvrage de Larc. Vous voyez que Grantin exprimait l'intelligence. Et donc c'est quand même quelque chose qu'on n'oserait presque plus dire aujourd'hui. C'est magnifique. Et donc c'est un entretien. Un entretien où il y a François Bernard Mach, Olivier Renaud d'Allon. François Bernard Mach, vous connaissez, bon, c'est un grand compositeur aussi, c'est un grand spécialiste des langues anciennes. Et Olivier Renaud d'Allon était un grand esthéticien, et un mathématicien qui s'appelait François Genuys. Et ils discutaient tous les trois avec Xenakis. C'est un entretien tout à fait fascinant, parce que effectivement, c'est assez bien résumé ici, il s'agit de rendre présent, avec ses simplifications inévitables, ses reprises insistantes, parfois ses contradictions, ce que c'est qu'une pensée à un moment donné. Et c'est ça qui m'intéresse d'analyser là. Alors, on va le faire par petits bouts, on va pas tout lire, mais quand même souligner quelques points. Donc c'est Revaux d'Allon qui commence et dit ça, la chose suivante. Xenakis a dit un jour de la musique qu'elle consistait à exprimer l'intelligence par des moyens sonores. Nous pourrions partir de là. Et c'est très intéressant parce que donc Olivier Revaux d'Allon développe un petit peu ça. Il va du côté de la tradition, de la rationalité grecque, occidentale, etc. Une autre mathématique, Pythagore, et tout ça. Et puis, il arrive à une inversion, il dit maintenant rien n'interdit de retourner la phrase, exprimer la musique par des moyens intelligibles. l'image que Xenakis se fait des musiques du passé, des musiques autres, est liée à sa vision de la musique de demain. Et pour lui, la continuité est assurée par cette correspondance étroite et constante entre l'intelligence et les moyens sonores. Alors, ça, c'est très beau et c'est très juste. C'est-à-dire que je pense que là, Revaud d'Allonne désigne... Revaud d'Allonne avait fait un livre sur Xenakis, hein, sur notamment tous les aspects visuels, parce que lui, il était plutôt de ce côté-là. Mais il met le doigt sur quelque chose qui, à mon avis, est central dans la pensée de Xenakis, c'est-à-dire, justement, cette idée que la musique n'est pas juste un objet quelconque. C'est-à-dire que la musique, elle parle d'une chose bien précise et elle parle justement d'un problème qui est lié à l'intelligence, lié à la façon de comprendre. Et à la fois, on a l'intelligence de la musique qui est en jeu, c'est sa deuxième proposition, tout autant que la musique comme une forme de représentation de l'intelligence. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui m'a énormément marqué. J'ai lu ce texte. Quand j'ai préparé cette conférence, je suis retombé dessus. Je me souvenais plus qu'il y avait tout ça là-dedans. Je me dis, mais tiens, mais c'est impressionnant en réalité. Alors, Mach renchérit et renchérit sur quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. La définition qu'on vient de citer pose un problème politique et non seulement épistémologique. Et il l'exprime très clairement. Et ça, c'était très fort à l'époque, hein, je me souviens, c'était vraiment une question forte. Cette rationalité qui prétend une valeur universelle est-elle une forme d'impérialisme ? Oui, ça, Mach le dit tel que, et c'est là que, d'un seul coup, cette dialectique romantisme-rationalisme, elle prend une autre dimension, et on voit à quel point ça traverse l'époque. Alors, nous y reviendrons. Je suis frappé, dit-il, par la tonalité humaniste de la formule. Xenakis semble écarter toute conception qui se refuse à assimiler la musique à une invention ou à une convention humaine, où il ne s'agit pas pour la conscience d'exprimer quelque chose, mais de révéler une réalité préexistante. Et Mach aussi, là, vous voyez, lui, il a une vraie formation d'humaniste. Il est, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de grec, de langue ancienne, etc. Et donc, il est frappé par quelque chose qui est effectivement frappant. Exprimer quelque chose, ben ça, c'est romantisme, hein, etc. Mais révéler une réalité préexistante, on est sur un autre champ. Et je pense que Mach voit très juste, enfin, il sent très, très fort quelque chose de formidable chez Xenakis, qui est qu'en fait, cette révélation qu'il fait musicalement d'une possibilité du sonore, elle a une valeur philosophique, hein, qui est effectivement de faire exister le réel. Et que probablement, en réalité, en faisant ça, elle se charge, du coup, d'une expressivité, peut-être d'un autre ordre, c'est-à-dire c'est pas une expressivité directement linguistique, hein, parce que derrière humaniste, il y a ce modèle-là, mais c'est notre rapport à l'univers qui est en jeu. D'où aussi mon titre, L'intelligence du monde, parce que je pense que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, Xenakis répond à ça, il dit « je ne crois pas que mon point de vue soit particulièrement humaniste », parce qu'à l'époque, c'était devenu presque une insulte, hein, humaniste, il faut se replacer un peu dans le contexte. Hein. Moi, je me suis fait insulter comme humaniste, donc je peux vous dire. Et pour moi, il y a de l'intelligence partout. Je pars du principe qu'il existe un monde objectif, je ne peux pas le prouver, bien sûr, c'est une option. Mais à partir du moment où nous prenons cette option, nous découvrons autour de nous un univers intelligible. Et là, on voit que c'est tout à fait effectivement une autre position épistémologique très forte. Alors, c'est une discussion à un bâton rompu, mais le niveau de la discussion, il est quand même pas anodin. Et il nous explique des choses très fortes. Hein. Il faudrait encore l'analyser encore plus. Bon, je dois avancer, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors, encore un petit bout, et toujours Xenakis. C'est une image. Pourquoi penser à l'homme comme à un être détaché de l'univers et en contradiction avec lui? Ça, c'est l'humanisme romantique. D'ailleurs, quand j'ai essayé d'expliquer dans la nef ce que représente la musique pour moi, je n'ai pas parlé d'intelligence. L'intelligence est une notion intuitive qui évoque l'astuce, l'habileté. Pour revenir à la définition initiale, je dirais plutôt exprimer une conception du monde. Donc ça aussi, ça nous précise quelque chose. C'est-à-dire que c'est la connaissance et la conception du monde qui trouvent un écho et se transfèrent dans quelque chose de musical. Et quand on réfléchit bien à comment il a conçu 80% de sa musique, c'est bien ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une conception du monde quelque part, cette conception du monde, il l'a traduit par des moyens musicaux, et donc il l'a fait vivre musicalement. Il va la chercher dans l'architecture, il va la chercher dans les chaînes d'ADN, il va la chercher dans plein de choses. Hein, ça, c'est impressionnant d'ailleurs la diversité. Et à chaque fois, il y a ce modèle, et ce modèle, on le convertit, c'est une sorte de conversion en musique. Et du coup, exprimer une conception du monde, ça prend tout son sens quand on met ça en rapport. Il t'arrive de parler de l'intelligence de l'oreille. Tu désignes par là son pouvoir de discrimination et d'identification. L'intelligence consiste à ne pas confondre. Être intelligent, c'est rapprocher, différencier, introduire des relations que l'on peut ensuite symboliser. Donc ça, c'est Revaux d'Allonne qui parle en esthéticien, et il est très fin là-dessus. Et Xenakis lui répond, on ne peut pas les symboliser totalement. Sinon, la musique ne serait pas nécessaire. La musique touche aussi à l'irrationnel. Ce que j'essaie d'analyser, c'est sa part la plus flagrante, la plus commune, mais au bout du compte, que peut-on répondre à « j'aime ça » Et là, on voit aussi, tout à l'heure, j'ai mis le mot « sujet » sur la table, on voit aussi comment c'est difficile, la relation au sujet, dans ces années-là. C'est-à-dire que l'intelligence de l'oreille, c'est forcément l'oreille d'un sujet. Et tout à l'heure, François Bernard Mache voulait quelque chose qui soit ancré dans une société, dans une civilisation. Il rapprochait Xenakis de la grande civilisation grecque. Effectivement, bon, on a beaucoup glosé là-dessus. Mais on voit bien que là, Xenakis, lui, a un autre point de vue. Il est clair, il dit la musique touche aussi à l'irrationnel. Moi, ce que j'analyse, et quand j'en parle, c'est sa part la plus flagrante, la plus commune. Parce que le sujet, je peux rien en dire. Et ça, c'est une façon de penser de laquelle moi j'ai dû m'extraire pour pouvoir travailler sur ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire justement une théorisation du musical à partir de l'idée de sujet. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, et c'est d'autant plus intéressant si je me souviens quels étaient les contenus des cours que j'ai connus de Xenakis. Xenakis, pour quelqu'un comme moi, faisait en gros un cours de maths de terminale. Et c'était ça, ses cours à l'université de Paris. Comme la plupart de mes collègues n'avaient pas fait d'études de mathématiques, évidemment, c'était très impressionnant pour eux. Mais ça l'était beaucoup moins pour moi. Et j'étais un peu frustré, je dois dire, parce que je dis, bon, bah oui, mais ça, on sait. Enfin, je veux dire, ok, j'attendais autre chose. Je rencontrais un grand musicien, quelqu'un qui était joué partout, dont j'adorais la musique en plus, et il me faisait un cours de maths de terminale, c'est-à-dire tout ce que j'aborais un peu dans mon existence. Alors, bon, évidemment, j'exagère pas tellement, hein, en fait, c'était vraiment ça. Et il y avait une raison à ça, qu'on peut comprendre ici d'ailleurs, c'est que... En fait, Xenakis voulait pas toucher les choses intimes, il voulait pas parler de ça. C'est pour ça aussi qu'il voulait pas entendre parler de faire de la composition, ça l'intéressait pas, puis il était pas à l'aise avec ça. Il était pas à l'aise avec ça, et donc c'était un paravent, Donc ça au moins c'est du solide, c'est voilà, si vous savez ça, vous saurez au moins quelque chose. Alors que si on parle des affaires du sujet, finalement vous saurez jamais rien. Bon, ça se défend hein, comme position. Mais j'ai un souvenir, et là j'ai un souvenir, j'ai toujours regretté que ma mémoire soit pas un magnétophone, parce qu'à un moment je l'ai quand même pris entre quatre yeux, j'étais en train de travailler sur le problème de la forme, notamment dans sa musique, j'ai dit mais monsieur Xenakis, c'est quoi pour vous la forme musicale? Et là il m'a fait une réponse lumineuse, je me souviens d'une réponse lumineuse, c'est-à-dire que cette réflexion il l'avait, il avait quelque chose de formidable, mais il fallait aller la chercher chez lui. Il n'allait pas la donner comme ça. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir enregistré la réponse qu'il m'a faite. Parce que je pense que c'est la vie. J'ai pas une mémoire suffisante. Vous pouvez pas me précipiter parce que bon, après on a continué à discuter d'autres choses. Mais j'ai ce souvenir que c'était lumineux. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort quand on rencontre un personnage de cette taille-là. C'est-à-dire qu'il y a, même si évidemment il y a une protection, c'est quelqu'un qui est obligé de se protéger parce que le pauvre il était sollicité pour plein de choses qui l'intéressaient pas du tout. Donc c'est normal qu'il se protège. Je peux pas lui en vouloir de ça. Moi, je m'en veux de pas être rentré plus, mais j'étais trop jeune aussi. C'est aussi compliqué quand il y a eu un grand écart quand même de génération. Alors, un dernier passage de cette chose-là, l'histoire de la société industrielle. Cette obligation du passage par la technologie, vous voyez que c'est assez mâche qui tique avec ça, qui ne m'étonne pas trop de lui. Pour moi, l'intelligence ne se réduit pas à ça. Ce n'est pas seulement la rationalité au sens du déterminisme classique. Les mathématiques travaillent aussi dans l'irrationnel. Elles construisent des édifices irrationnels. Et ça, c'est aussi très important parce que ça permet de comprendre que pour Xenakis, il n'y avait pas que cet aspect, matérialiste derrière les mathématiques. Il avait aussi la conscience que les mathématiques, c'était une science de création de monde. Et les grandes mathématiques, c'est effectivement ça. Mais bon, c'est pas les mathématiques, malheureusement, qu'on apprend à l'école. Et voilà. Alors, je vais juste vous montrer une petite chose que vous connaissez tous, mais pour vous faire prendre conscience de ce qui s'est passé dans ma thèse sur le problème de la forme. Ça, vous le connaissez, c'est la matrice d'Akoripsis. Alors, peut-être que rapidement, si éventuellement il y a quelqu'un qui ne connaît pas, on pourrait regarder à quoi ça correspond. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est une analyse, Bien. Alors, ce tableau, en fait, correspond à plusieurs éléments. Et c'est très intéressant de le voir. Voilà. Donc il y a un défilé qui correspond au temps. Et chacune des cases représente une section de la pièce qui comprend les éléments qui sont prescrits par la case en question, par la ligne en question. Par exemple, l'élément 5 dit cette corde là, qui avait existé, qui peut seul plus n'existe plus. Par contre, là, il y a les cordes en arco, voilà, et puis la flûte. Et toute la pièce est conçue, en fait, comme le défilé de ce que moi je vais appeler une matrice de présence. C'est-à-dire que, finalement, c'est une conception matricielle du temps qui fait que, à un moment donné, il y a la présence de tel ou tel matériau. Bien. Bon, alors j'espère que tout le monde comprend bien ça. Voilà. On va arrêter. Donc je reviens à mon diaporama pour vous expliquer que, en fait, la réponse à ma question et à mes interrogations, elle n'était pas très loin. mais elle m'a coûté quand même un petit effort conceptuel parce que, et ça dit beaucoup de choses, ce qu'a été cet effort à cette époque-là. Donc ça, c'est la matrice de Xenakis. Et ce que moi, je dis dans ma thèse, c'est que cette matrice n'est pas écrite de manière tout à fait pertinente. Il vaudrait mieux l'écrire comme ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui change entre ça, la version de Xenakis, et cette version-là, qui est en fait la mienne? Eh bien, il ne change rien. J'ai fait un copier-coller de tous les éléments. Donc c'est rien. Il change juste une chose, c'est que cet axe-là, qui était un axe de matériaux liés à des considérations spatiales, ici parfaitement arbitraire en réalité, hein, c'est-à-dire qu'il avait choisi tel élément, ici, l'ordre des choses est l'ordre temporel, c'est l'ordre d'apparition des éléments. C'est tout. Mais ça change beaucoup de choses, en fait, sur la manière de penser ce qui se passe. Et ça nous explique la transition entre la génération de Xenakis et la mienne, qui est probablement que, effectivement, Xenakis avait une pensée de la musique spatialisante, alors que moi, je vais réintroduire, du seul fait de considérer l'ordre temporel, la notion de la temporalité comme princeps, comme première. Et pourquoi ça? Parce que au fond, c'est la temporalité qui est liée au sujet. C'est-à-dire que tout ça est lié, en fait. Je remets le sujet au centre du débat. Parce que cette version-là, c'est une version pour les nuages. Pour le dire comme ça. C'est un nuage, d'ailleurs, ça. Puisque c'est stochastique, etc. Et cette version-là, c'est une version pour les êtres humains. C'est-à-dire ça explique qu'il y a effectivement un déroulement et que donc ben, le matériau, ça commence là et ça finit là et que ça a un sens. Alors, il y a un sens qui est lié à ça. Alors vous allez me dire, la différence, elle n'est pas très grande, mais elle n'était pas du tout évidente. Autant je vous montre comme ça, ça a l'air évident, mais je me souviens très bien que Daniel Charles, quand il a vu ça, et pourtant c'était un homme qui avait une culture mais phénoménale, il a dit, mais c'est vrai que personne n'a jamais dit ça. Et c'est à la fois très simple, et à la fois, on voyait pas bien à l'époque d'ailleurs, hein, quand j'ai fait les premiers trucs. Quand j'ai fait le premier diagramme en ordonnant comme ça, je me suis dit, oh non mais c'est con ça, c'est n'importe quoi, j'ai jeté ça à la poubelle. J'ai dû attendre 2 semaines après pour dire, j'ai repris ça, j'ai dit, mais non, c'est pas idiot. C'est vous dire à quel point c'était pas naturel, c'était pas évident de penser comme ça. On a du mal, mais bon, c'était un peu ce témoignage-là aussi que je voulais donner aujourd'hui. Alors, le dernier, enfin l'avant-dernier en fait, j'ai encore deux petits extraits, pauvre que oui, on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est un petit extrait de Keleuta. Il y a des choses très intéressantes dans Keleuta, notamment un article qu'il écrit pour l'IRCAM en 81, donc on commence à avancer, et c'est très intéressant parce que l'IRCAM fait un numéro sur l'informatique musicale et demande à Xenakis évidemment de participer à ça, mais Xenakis a une position que je trouve très nuancée, hein, c'est-à-dire qu'il se rend bien compte que qu'il y a qu'il peut y avoir un souci avec l'informatique, lui pourtant qui a tellement défendu ça. Bon, alors il revient sur le problème des univers musicaux, le problème de qu'est-ce que c'est qu'un matériau musical, quelle est l'essence de ces matériaux, c'est l'intelligence humaine dans un certain état de cristallisation. Donc il met déjà l'intelligence dans le matériau, hein, c'est-à-dire que c'est ça aussi, ça va être c'est questionnant. Hein. Il semble que la musique et les arts en général doivent nécessairement être une cristallisation, une matérialisation de cette intelligence. Donc il intervient beaucoup là-dessus. Et il dit bon, évidemment, l'artiste doit se doter de connaissances en mathématiques, d'où les cours qu'il nous faisait. Hein, mais il dit par ailleurs, il est temps de créer une nouvelle science de morphologie générale qui traitera des formes et des architectures de ces différentes disciplines dans leur aspect invariant, ainsi que des lois qui président à leur transformation, celles-ci ayant parfois duré des millions d'années. Et là, cette idée de morphologie générale, d'ailleurs, on a les mêmes phrases chez Schaeffer. C'est très intéressant parce que ces gens-là ont fait une grande production théorique et ils disent, mais il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui manque. Schaeffer dira, bon, j'ai fait un traité des objets musicaux, mais en fait, il faudrait maintenant faire un traité des organisations musicales. Et ça, c'était des choses qui m'avaient frappé, parce que, je veux dire, bon, ouais, c'est ce débauche de théorie, et que finalement, le centre de la théorie, il était absent, ils avaient conscience qu'il y avait une absence. Ça, c'était, pour moi, c'était très, très interrogeant et très motivant aussi, à la fois. Bon. Dans le même article, hein, dans la page 20, il y a un passage qui est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, il parle de la musique informatique et il dit que, bah, finalement, l'informatique n'a pas produit une musique très intéressante. Pourquoi ? À mon avis, ces échecs sont dus à de multiples raisons, mais on peut en distinguer deux principales. Et la première, c'est que les musiciens qui servent des ordinateurs sont ignorants des théories d'ordre général, mathématiques, physique, acoustique. Donc leur talent, quand ils en ont, est incapable de pénétrer ce domaine vierge. Donc le problème de l'ignorance de la théorie, c'est-à-dire que si on met l'informatique en premier, ben finalement la musique en pâtit. Et puis les scientifiques qui ont accès à la technologie de l'ordinateur ont une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'esthétique musicale. Et qui, comme ils n'ont pas eu à se battre sur le terrain esthétique, ils manquent d'expérience, ne savent pas du tout dans quelle direction ils devraient s'engager. Et donc, on manquait effectivement de cerveau qui était capable de combiner ces deux choses-là. Alors, il y en a eu, hein, des gens comme Risset avaient les deux têtes, si j'ose dire. Bien. Alors. Cette désillusion qu'on voit poindre, parce que quand même c'est un petit peu ça. Voilà, on arrive en 80, dans les années 80-90, il y a une désillusion pour les gens qui avaient une conscience de ce qui se passait, qui commençait à poindre. Un jeune ou un moins jeune, dit-il, veut se faire une place au soleil en essayant d'attirer l'attention par des actes différents et inouïs, mais presque toujours, le talent lui fait défaut. Il ne peut créer des choses inouïes et différentes. Il ne fait que rabâcher, soit en variant peut-être un petit peu des façons de faire contemporaines et même d'avant-garde, soit franchement en allant imiter des styles du 19e siècle. Le choc ne se produit pas, mais une grisaille implacable, un brouillard, descend lentement sur l'art actuel. Et il semble que ceci n'est pas le propre de la musique, mais aussi de la peinture et de l'architecture. Lors de son dernier cours, il y a eu un cours qui était tout à fait, j'allais dire un peu triste quelque part. C'est quand Xenakis nous a parlé. Il a fait un cours sur le projet qu'il avait fait pour la Cité de la Musique de la Villette. Je vous montre ici les schémas de ce qu'il avait envisagé et c'était allé jusqu'à une maquette. Alors il nous avait raconté l'histoire. Hein. Jacques Lang l'appelle, lui dit « Est-ce que vous voulez faire partie du jury d'architecture pour la Villette ?» Enfin, pour tout ce complexe-là. Et Xenakis lui répond, mais je veux pas faire partie du jury, je veux présenter un projet. Et donc, c'est le projet qu'il y a là. Et Xenakis n'a pas été retenu, le projet de Xenakis n'a pas été retenu. Je remarque quand même que c'est presque frappant la ressemblance de ça avec certains aspects de ce qui a été fait pour la Philharmonie. Je ne sais pas, il faudrait voir jusqu'où l'inconscient n'a pas travaillé, ou c'est peut-être tout à fait conscient, je ne sais pas. Hein? Non, plagiat, je pense pas, parce que, bon, non, c'est pas plagier, je n'irai pas jusque-là. C'est que, effectivement, dans ce projet de la Villette, il y a eu quelque chose de raté au niveau de l'État. Et Xenakis en était conscient. Et il nous expliquait, oui, ben voilà, on est passé dans une époque post-moderne, et moi je suis un moderne. Et il le disait comme ça. C'est-à-dire qu'il avait cette espèce, une sorte d'amertume de ça, du fait que l'époque avait changé, et que même si politiquement il aurait pu être soutenu, l'angle l'appelait, quoi. En fait, l'époque, elle était partie sur un autre critère. Et il en avait une certaine amertume, enfin, qui était perceptible quand même. Hein. C'est-à-dire que je. Ouais. Bon. Alors. Le dernier texte qu'on va aborder, je vais finir avec celui-là, c'est ces entretiens qu'a fait François de Lalande. Là, on est finalement assez peu de temps avant la mort de Xenakis. François de Lalande est conscient qu'il est grand temps de faire des entretiens avec Xenakis, de parler avec lui, d'avoir cette mémoire extraordinaire. Et ces entretiens sont tout à fait formidables. Alors, ils sont évidemment basés sur ça. Et je vais souligner quelques passages de ce livre parce que c'est des passages que je trouve très très importants. Celui évidemment qui a donné le titre à l'ouvrage, il faut être constamment un émigré. Alors, replaçons-le dans son contexte. Le piège de la mémoire, dit Xenakis, du souvenir, donc du blocage, est constant. Et ça, pensez à l'idée du postmodernisme derrière, c'est ça qu'il vise en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut cultiver constamment le regard neuf, c'est-à-dire la distanciation. Et ça, on sent que c'est vraiment été son attitude permanente, c'est-à-dire toujours se déplacer, toujours avoir une pensée mouvante, toujours ne jamais se contenter d'eux. Et ça, c'était quelque chose, c'était une grande leçon, hein, parce que c'est pas l'attitude conservatoire, si vous voulez, hein, du tout. C'est aussi pour ça que, enfin, quand on parle de transmission, qu'est-ce qu'on transmet? Si on transmet des recettes, des règles, ou est-ce qu'on transmet effectivement cet appétit? Et il faut être constamment un immigré dans tout. Alors là, on voit les choses d'un œil beaucoup plus frais, beaucoup plus aigu, beaucoup plus profond. Parce qu'on n'est pas rassuré par l'environnement dans lequel on se trouve, dans lequel on baigne. Sinon, on ne le voit plus, ce sont des meubles, tout devient mobilier. Et cette affaire-là, c'est vraiment... on est à la fin des années 90, c'est tellement lucide sur tout ce qui va se passer après que ça fait froid dans le dos, presque. Hein. Vous voulez dire que l'esprit créatif, dit François de Lalande, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une espèce d'ascèse de l'esprit. Oui, moi, je crois que c'est absolument cela qui doit porter sur la mémoire. Il faut oublier, mais sans oublier complètement. Il y a une stratégie que l'individu doit adopter avec son propre moi, sa propre personnalité. Et puis ensuite, une constante distanciation critique de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il pense. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut être à la fois dedans et dehors. C'est une gymnastique possible et qui est vitale. Je ne dirais pas seulement pour toute création, mais pour toute vie. L'homme doit être cela, c'est son privilège. Et là, je pense qu'on touche, en fait, à quelque chose d'extrêmement profond, de ce qui fait que quelqu'un comme Xenakis s'agissait, et pas seulement lui, de cette génération. C'est-à-dire que cette nécessité du déplacement, de sortir de la pensée, de pas rester dans des meubles, c'est quelque chose qui probablement est lié aux événements qu'ils ont dû vivre. Ça, c'est vrai que pour ma génération, c'était plus confortable quelque part. Hein, on n'a quand même traversé aucune guerre. Les manifestations, certes, il y en a toujours, mais elles sont pas si pacifiques que ça. Mais c'est pas du tout du même ordre que effectivement ce que lui il a connu. Et donc cette façon de concevoir, qui est en fait pour moi ça peut être aussi une définition de l'intelligence, hein, il faut être constamment un immigré. Et ça peut être aussi une compréhension du monde. En réalité, si on va chez Deleuze, on dirait, voilà, il y a le territoire et la déterritorialisation, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire être un immigré, c'est ça, en fait. Et donc il rejoint finalement quelque chose qui est très fort et très important pour les gens de sa génération et que malheureusement notre génération a peut-être un peu trop oublié. Alors, un dernier mot, c'est que derrière tout ça, il y a évidemment le fait qu'une musique, c'est une proposition par rapport à un public. C'est-à-dire qu'il y a quand même à un moment un sujet, et François de Lalande va essayer de comprendre quel rapport Yannick Xenakis avait avec le public. Et il a du mal. Il a beaucoup de mal, vous voyez. Donc il parle beaucoup, et Xenakis est sur la défensive, il répond très peu, il comprend pas bien la question, il voit pas où de Lalande veut en venir. Alors c'est très intéressant. De Lalande lui dit, une question concerne votre relation avec le public. Vous avez, de Lalande va fort, hein, dans votre relation avec le public, une espèce de relation, j'allais dire, presque de pouvoir. Pas au sens de pouvoir politique, mais de pouvoir qu'on peut avoir sur quelqu'un, de pouvoir de subjuguer, d'envahir, de dominer. Est-ce que je me trompe ou non ? Xenakis, agressif. Bon, évidemment, c'est pas trop son truc de dire qu'il y a une relation de pouvoir avec le public. Alors, de Lalande revient à l'attaque. Il dit agressif, oui, peut-être, mais c'est surtout possédé. Alors, le mot possédé arrive dans ce qui est presque au sens de possession. Alors, possession, Xenakis comprend pas très bien, c'est pas parce que je voulais posséder le public, pas du tout, non, mais loin de moi cette idée. Alors, parce qu'il comprend, évidemment, écrire une musique pour plaire au public. Non. Évidemment, ça n'a jamais été son cas. Pourtant, sa musique a beaucoup plu au public. Ce qui est d'ailleurs une rareté dans le monde de la musique de cette époque-là. Notable. Xenakis dit, mais attendez, posséder, c'est pas forcément un acte totalitaire. C'est aussi une forme de généralité. Hein. C'est une manière de partager, au fond, de tenir les jambes très serrées. Et alors, toute cette discussion se poursuit, comme ça, Xenakis dit, oui, comme ça, d'accord, c'est un trait essentiel de ma musique, parce que c'est comme ça que je ressens la musique moi-même. Quand j'aime une musique, je suis possédé par elle, je la sens comme faisant partie de moi-même. Et là, il y a le sujet qui débarque. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voyez. Parce que je pense en réalité que toute musique ou toute chose qui vous entraîne est comme une sorte de cristal, de catalyseur, qui vous permet d'atteindre vous-même à des états qui vous concernent. Par l'effet de l'existence, de la présence de ce que vous voyez ou de ce que vous écoutez à ce moment-là. C'est comme une drogue, mais une drogue qui vous concerne, vous. Une drogue mentale. Qui n'est pas pour vous assommer, mais qui vous permet, vous, de vous réaliser. De différentes façons, multiples d'ailleurs, parfois très profondes aussi. Voilà comment je conçois ce que vous appelez le pouvoir ou la possession. Alors, je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire en fait encore sur ce moment du dialogue. C'est cette idée d'immersion et de submersion, le fait que au fond un compositeur rentre finalement dans une relation avec l'œuvre qui est aussi une relation avec le public et où se joue quelque chose de très très fort de la conscience du monde. Alors, évidemment, quand on a côtoyé, même si c'était très peu, un compositeur de la trompe de Xenakis et qu'on est soi-même compositeur, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont aussi de l'ordre de la possession, si j'ose dire, c'est-à-dire qui se transfèrent peut-être de manière plus inconsciente. Hein. Et je vais conclure en vous faisant entendre une petite partie d'une pièce que j'ai écrite il n'y a pas très très longtemps. Ça a été donné dans le cadre du festival Across. C'est une pièce qui justement s'appelle Immersion-Submersion. C'est une pièce électroacoustique. Elle a été créée à plaisir, donc en 2016. Et c'est une tradition en fait aussi musicale qu'une génération de compositeurs rend hommage à la précédente. Il ne s'agit pas du tout de ça, là, parce que ce n'est pas une pièce spécifiquement écrite en hommage à Xenakis. J'en ai une en tête, mais bon, il faut trouver la circonstance. Et c'est vrai que en y réfléchissant, je pense que le rapport que je peux avoir par moment au matériau musical, le rapport que je peux avoir avec la puissance du son, ça, c'est quelque chose que je dois à Xenakis. Alors, on va écouter ce petit extrait et peut-être qu'on pourra discuter de tout ce que de tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est la fin de la pièce, hein. La pièce dure une vingtaine de minutes, donc c'est une pièce assez longue, donc on va écouter les 7 dernières minutes. Si ça veut bien fonctionner, parce que j'ai eu des soucis. Merci de votre attention.